Conférence privée, Père Philippe, 10 novembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer d'entrer dans cette lumière du mystère de Marie par rapport à notre vie, par rapport à la communauté Saint-Jean. Comprendre comment le mystère de la consécration de Marie qui a été comme sa réponse au mystère de l'Immaculée Conception, selon la tradition, puisque c'est le premier fruit que la tradition, c'est la première affirmation de la tradition chrétienne, Marie qui se présente au Temple. Et cette présentation de Marie au Temple, c'est sa consécration totale à Dieu. C'est donc le fruit de son mystère de l'Immaculée Conception. C'est par notre consécration à Dieu que nous nous mettons nous-mêmes tout proches de son mystère de l'Immaculée. Cette consécration qui jaillit de son cœur, qui est comme l'aurore de la vie évangélique. Elle est l'aurore de la vie évangélique et elle est comme la propriété. Elle annonce. Et puis en même temps, elle sera au terme. C'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder le mystère de l'Immaculée Conception et le mystère de l'Assomption. Le mystère de l'Assomption, c'est justement ce qui achève tout dans le mystère de Marie. Et le mystère de l'Immaculée Conception nous est donné par elle à Lourdes, à Bernadette, à travers son mystère de l'Immaculée Conception. C'est ce que le Père Kolb a tellement senti et a tellement compris, cette affirmation de Marie, « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Église la proclame l'Immaculée et Marie dit « Je suis l'Immaculée ». Or, elle ne dit « Je suis l'Immaculée » que dans son mystère de l'Assomption. Pour nous faire comprendre, je crois que dans son mystère de l'Assomption, tout est vécu éternellement. Marie vit dans le ciel, à travers son mystère de l'Assomption, cette consécration à Dieu. Mais c'est en ce sens-là que toujours, nous devons revenir à la manière du Père Kolb, à ce mystère de l'Immaculée et à ce mystère de l'Assomption. Par notre consécration, nous sommes à la suite de Marie, tout proche de cette miséricorde prévenante du Père, qui est le mystère de l'Immaculée Conception. C'est cette miséricorde prévenante du Père qui l'enveloppe pleinement et totalement, qui la saisit dans tout son être, pour faire que en elle tout soit dans une unité de vie. Elle est au sommet de toute la création et elle est au sommet de tout le mystère de la reprise totale de tout. Et en elle les deux se tiennent, création et recréation. Puisque justement, il n'y a pas eu de conséquences du péché. Il y a donc cette harmonie parfaite. Je crois que c'est très important pour nous de regarder le mystère de nos vœux. Le mystère de nos vœux dans ce qu'ils ont de plus absolu. L'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance. De les regarder dans le cœur immaculé de Marie qui se consacre à Dieu. Et donc de comprendre que ces vœux nous mettent dans cette attitude d'abandon, de remise totale par Marie au Père. Nos vœux doivent nous habituer à vivre de cette miséricorde prévenante du Père. Nos vœux doivent nous habituer à nous remettre entièrement au bon plaisir du Père sur nous. C'est ça l'esprit des vœux. Et c'est pas telle ou telle réalisation particulière, mais c'est de demander à l'Esprit Saint, par Marie, de transformer notre cœur en un cœur de pauvre, en un cœur désireux d'être dans une limpidité plénière, dans un cœur désireux de n'accomplir que la volonté du Père. Aller le plus loin possible dans l'esprit de pauvreté, c'est la seule manière pour être tout entier docile au Saint-Esprit, c'est la seule manière pour laisser l'Esprit Saint toujours passer devant. Cet esprit de pauvreté, c'est nous dépouiller de toutes nos attaches particulières, de toutes nos volontés propres. Parce que nous avons tous nos petites conceptions de la vie religieuse. Nous avons tous nos petites conceptions de la vie monastique. Nous avons tous nos petites conceptions de la vie apostolique. Très vite, vous savez, au bout de 6 mois, ça pousse. Et alors, quand c'est confirmé par la profession, ça devient terrible. Ça devient quelque chose de beaucoup plus net. Je crois qu'il faut s'habituer. C'est la seule manière d'être vraiment totalement un mari, s'habituer à offrir à Dieu toutes nos petites manières de concevoir la vie religieuse, toutes nos manières de concevoir la vie monastique. Mais ceci, ça nous empêche de faire une certaine politique. Parce qu'il peut y avoir une politique à l'intérieur d'un couvent. Vous savez très bien que dans les abbayes, quand il s'agit de voter pour un abbé, on s'aperçoit très bien qu'il y a des tendances diverses qui se font sentir. Et ces tendances diverses qui se font sentir, c'est ce que j'appelle la politique. On a une conception de la vie religieuse, on a une conception de la vie monastique, et on veut que notre conception de la vie monastique l'emporte sur l'autre. Parce que si on en a une, nécessairement elle s'oppose à une autre. Et très vite, vous le savez bien, très vite, on arrive à opposer des manières de concevoir la vie religieuse et la vie monastique, ou les éléments de vie monastique à l'intérieur de ce que représente une vie évangélique, comme doit être la communauté Saint-Jean. Et alors ça, c'est pas bon, c'est pas marial. Je vous ai dit plus d'une fois, c'est Marie qui fait l'unité de la communauté. Il faut être farouche là-dessus. C'est Marie qui fait l'unité. C'est Marie qui est au-dessus de nos petits points de vue, de conception d'une vie religieuse, d'une vie monastique, de telle ou telle manière. Parce qu'autrement, on tombe dans cet aspect politique. Et alors à ce moment-là, on veut que le point de vue qu'on a, parce que nous sommes tous généreux, et parce qu'on est tous généreux, on fait très bien la politique, en raison de la générosité. Parce qu'on considère que ce qu'on conçoit, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors à ce moment-là, on veut à tout prix que ce soit cela qui l'emporte sur les autres. Je crois que c'est très mauvais pour l'attitude fondamentale de notre don à Dieu. Vous voyez, on ne se donne pas à telle ou telle forme de vie religieuse. On se donne au Christ. On se donne à Marie et par Marie au Christ. vouloir se donner à telle ou telle forme de vie religieuse, c'est trop humain. Et c'est quelque chose qui n'est pas et qui ne doit pas être. Parce qu'on ne peut pas se donner à telle ou telle forme de vie religieuse. On ne consacre pas sa vie à une opinion politique. Surtout quand on veut se consacrer à Dieu. Que les hommes politiques font ça, c'est catastrophique, on le sait très bien. Et c'est catastrophique pour eux et pour ceux qui sont à la suite d'eux. Et très très vite on a cette conception-là, et très très vite on croit que c'est cela qu'on doit faire, c'est faux. On doit se consacrer totalement, comme Marie, on doit se consacrer totalement au bon plaisir du Père sur nous. Et nous ne faisons pas une œuvre de réforme, on ne fait pas une œuvre propre. Croyez-le bien, je n'ai jamais eu l'idée de faire une œuvre propre. Ça, je peux le dire ouvertement et vraiment. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'accomplir vraiment ce que le Seigneur veut sur vous et à travers la communauté Saint-Jean. Et je vous demande à chacun d'entre vous d'avoir le même désir. C'est-à-dire le désir de tout donner à la Vierge Marie, de tout donner par elle au cœur du Christ, pour être entièrement à leur service, comme ils l'entendront. Dans 10 ans, dans 15 ans, si Dieu le permet, hein, chaque prieuré de Saint-Jean aura sa physionomie propre. C'est forcé. Et puis de temps en temps, on devra en prendre un d'un prieuré et le mettre dans l'autre. Ça fera grincer les murs. N'est-ce pas ? Et pourtant, ce sera nécessaire. Parce que ce n'est pas du tout un vœu de stabilité à Cotignac, un vœu de stabilité à la Chaise Dieu, un vœu de stabilité à Sénanque, un vœu de stabilité pour la Chine, un vœu de stabilité pour l'Afrique. Non. On se donne entièrement au Christ et à la Vierge Marie. C'est ça que nous apprend la consécration de la Très Sainte Vierge. Il n'y a pas de constitution. C'est désolant. Hein. Marie n'a pas écrit une petite constitution quand elle avait 8 ans, ça aurait été merveilleux. On aurait gardé ça, vous voyez, comme un chef-d'œuvre, en disant Marie a écrit ça, vous voyez ça, sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est la règle de la Mère de Dieu. Vous savez bien qu'à la sellette, Marie a communiqué une petite règle, mais c'est d'une simplicité merveilleuse. Et au fond, c'est un esprit. Marie nous communique un esprit. Et c'est ça qu'elle veut, c'est nous communiquer un esprit. C'est pas nous faire attacher à tel ou tel point de vue. Nous sommes attachés à certains points de vue parce que nous savons que c'est Dieu qui nous le demande. Mais c'est uniquement parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est pas pour autre chose. C'est pas parce que c'est la conception qui semble la meilleure. Parce que demain, ça pourra changer. Tandis que si on est attaché vraiment à la volonté du Père, ça ne change pas. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est la volonté du Père sur nous. Elle ne change pas, vous voyez, elle s'approfondit. Nous la découvrons de plus en plus. Mais ça ne change pas. Notre consécration doit être une consécration d'abord tout intérieur, avec Marie. C'est la reprise de la vie monastique à travers le cœur de Marie. Et ça, c'est capital. Parce que ça peut aller beaucoup plus loin, ça garde une souplesse beaucoup plus profonde, et ça réclame une incarnation. Toujours le mystère de Marie, ce n'est pas un mystère d'idéologie. Et donc une incarnation très profonde à travers le cœur de Marie. Et alors ça, je crois que c'est important, vous voyez. C'est important de comprendre qu'on n'a qu'un seul désir. C'est vraiment de répondre à cet appel actuel du Père à travers le cœur de Marie et à travers le cœur de Jésus sur vous. et que c'est vous qui répondez, et moi-même aussi, mais vous aussi, tous ensemble, et chacun en particulier, et que cette consécration, elle doit se faire tout de suite, vous comprenez bien. N'attendez pas l'heure où vous ferez profession perpétuelle. C'est l'immense avantage que nous montre Marie. C'est la hâte du mystère de Marie. Marie n'a pas eu besoin de faire profession dans les mains du grand prêtre. Le grand prêtre n'aurait rien compris. Il n'aurait rien compris, le grand prêtre. Il aurait dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien sûr que c'est du Saint-Esprit? Et la pauvre petite Vierge Marie n'aurait pas pu s'expliquer. Et donc elle a fait cet engagement intérieurement. C'est là la hâte de Marie. Dès que Marie frappe à notre cœur, dès que Marie veut nous prendre, dès que le mystère de Marie pénètre dans notre vie, il faut que immédiatement nous répondions. Et nous répondons en nous donnant totalement. C'est beaucoup plus simple, vous savez, et ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite parce que à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit peut nous demander tout ce qu'il veut. Parce que on se donne et c'est la seule manière d'être heureux. Mais il faut recommencer tous les jours, hein, parce que les conséquences du péché originel sont là. Et les conséquences du péché originel, vous voyez, c'est la ruade de l'âme. Il faut faire attention. Mais il faut recommencer tous les jours à se consacrer totalement. Et tous les jours, il faut redire que c'est sans condition, inconditionnellement qu'on se donne. Et on se donne à Marie, on se donne à Jésus. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui maintient l'absolu, vous voyez. L'absolu, il est au-dedans de nous. Ça mettra du temps avant que l'absolu règne sur nos figures. En regardant chacun d'entre vous, on pourrait dire, oh, on voit très bien, celui-là, il est totalement engagé, c'est merveilleux. Je ne peux pas encore le dire. Hein. Et sur la terre, on ne le dira jamais, parce que notre figure, elle est quand même, hein, vous savez bien, c'est Léonard de Vinci qui, lui, pensait qu'à 45 ans, notre physionomie était le reflet de notre âme. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Parce qu'il y a un atavisme qui demeure. Et l'atavisme n'est pas le reflet de notre âme. C'est autre chose. Et l'atavisme demeure jusqu'à la fin. Donc on peut avoir une tête de brigand et être un saint moine. Avis aux amateurs, hein. Et c'est vrai, on peut avoir vraiment une tête de brigand. C'est que si vous aviez un grand-oncle qui était un brigand et puis que vous ressemblez à ce grand-oncle, alors il y a une petite bagarre qui se fait parce que votre âme n'est pas l'âme du brigand, mais il y a un atavisme qui se fait. Et c'est très vrai, ça. On n'a pas la physionomie de notre âme. Heureusement, c'est comme ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas juger de l'extérieur, n'est-ce pas ? C'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Mais nous savons qu'au-delà de notre atavisme, nous devons avoir une âme de moine. C'est-à-dire une âme totalement consacrée. C'est ça que j'ai l'impression, une âme de moine. La cellule intérieure de Catherine de Sienne. Une âme totalement consacrée, comme Marie. Alors pour Marie, évidemment, elle avait une figure de moine. Ça c'est sûr, parce que chez elle, l'atavisme était purifié radicalement grâce au mystère de l'Immaculée Conception. Alors Marie peut nous faire cette petite grâce particulière, mais ça, il ne faut pas trop y compter. Hein. Ne demandez pas le charisme d'avoir vraiment une physionomie d'Immaculée hein, grâce à Marie, parce que vous êtes consacré entièrement à elle. Non, on n'a pas le droit de demander ça. Ce serait merveilleux. Hein. Ça ferait hein, une séduction prodigieuse. Tous ceux qui entreraient ici... Oh, extraordinaire. C'est pas comme ça et ça ne va pas se faire comme ça. Alors on a tous des atavismes multiples et divers, c'est bien évident, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est un. C'est dans le cœur de Marie qu'on est totalement consacré à elle. Et ça, je crois que très vite le Saint-Esprit le réclame. Très vite. On est totalement consacré à Marie. Et on veut, par elle et en elle, vivre entièrement de ce qu'elle a vécu. Un esprit. Un esprit qui vient de l'Esprit Saint passe par le cœur de Marie. Vous voyez, c'est la grâce du Père Kolb, mais je crois que c'est la grâce après le Concile Vatican II. C'est une reprise radicale qui doit se faire au plus intime de notre cœur. Vous voyez, je vois que c'est la grâce de Bethléem. D'une autre manière, ça m'intéresse toujours de regarder Bethléem, parce que c'est toujours beau de pouvoir loucher un peu, n'est-ce pas, sur quelque chose d'autre qu'on connaît bien et qu'on sait que c'est bien cela. Alors, c'est pas la même chose, puisque vous, c'est une vie apostolique. Tandis que Bethléem, c'est une vie purement monastique à la Saint-Bruno. Vous, c'est une vie monastique. C'est une vie apostolique, évangélique. Mais il faut dans cette vie évangélique ce don total de votre cœur, de votre intelligence, de tout vous-même. Et je dis bien, c'est un esprit, c'est un don absolu. Et une fois qu'il y a cela, tout le reste se relativise. Hein. Tout le reste se relativise. Même la santé, vous voyez, même la santé. La Très Sainte Vierge permet que même ceux qui n'ont pas une santé extraordinaire, qui peut-être seraient mis un tout petit peu en dehors de certaines formes de vie monastique ou de vie apostolique, puissent rester. Parce que ça fait la miséricorde de la Très Sainte Vierge. Alors, il faut qu'on comprenne cet absolu et qu'on le vive, parce que ça demande d'être vécu. L'absolu de cette consécration dans la pauvreté, l'absolu de cette consécration dans la virginité, l'absolu de cette consécration dans l'obéissance, qui nous met dans cette attitude d'abandon. On est enveloppé de la miséricorde du Père. Et c'est cette miséricorde du Père qui nous porte. J'y reviens tout le temps à cela, hein, parce que je voudrais que ça passe dans votre vie d'une manière telle que ce soit pour vous une évidence. Alors ça met du temps avant de se réaliser, c'est bien évident, ça met du temps avant de se réaliser. Alors cet esprit doit s'incarner. Ça, c'est sûr, cet esprit doit s'incarner, cet esprit qui vient de Marie, qui vient de l'Esprit Saint, doit s'incarner. Il s'incarne dans vos vies, et il doit s'incarner dans vos vies. Alors il s'incarne, pour le moment, dans une vie qui implique une grande soif de contemplation. Je vous l'ai dit, une grande soif d'oraison et une grande soif de contemplation. Nous y reviendrons sur la contemplation, mais j'insiste tout de suite, c'est la première incarnation qui est une incarnation toute intérieure, celle-là. Notre vie monastique est une vie monastique contemplative. Et c'est en ce sens-là qu'elle peut assumer tout l'aspect de la doctrine. Une vie contemplative, une vie monastique qui n'est pas contemplative et qui est uniquement liturgique, ne peut pas assumer une doctrine. Oui. Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est très important que l'aspect doctrinal pour nous, qui est essentiel, parce qu'on doit être des apôtres, cet aspect doctrinal ne doit pas être un point de vue intellectuel. Ça doit être un point de vue de contemplation. Alors qu'il y ait des éléments intellectuels, c'est pour ça qu'on fait des cours de métaphysique, c'est pour ça qu'on fait des cours de philosophie, mais vous comprenez bien, il ne s'agit pas de devenir en premier lieu des philosophes, il s'agit de devenir en premier lieu des enfants de Dieu. Mais la philosophie, puisque l'Église nous demande que nous maintenions une métaphysique. Et je le sais, à Rome, on nous le demande. On nous demande de maintenir des études au point de vue philosophique qui soient des études sérieuses, qui aillent jusqu'au bout des exigences de ce que représentent des études où on donne notre intelligence. Vous voyez, on fait des études de philosophie pour purifier son intelligence pour qu'elle soit donnée. Parce que si notre intelligence n'est pas purifiée, notre intelligence très vite s'opposera à cette consécration totale. À cette consécration totale à Jésus. Très très vite, si votre intelligence est saisie par une pensée dialectique, eh bien, très très vite, il y aura une espèce d'opposition en vous. Parce que la dialectique ne peut pas être totalement au service de l'amour. Vous le savez bien. Le premier Hegel parlait de l'amour, et le dernier Hegel, enfermé dans sa dialectique, ne parle plus de l'amour. Parce que la dialectique, c'est la raison qui se replie sur elle-même. C'est l'intelligence raisonnante qui se replie sur elle-même. Elle n'est plus contemplative. Et elle ne peut plus être contemplative. Mais si nous faisons de la philosophie, c'est premièrement pour purifier notre intelligence. C'est très vrai, purifier notre intelligence et offrir notre intelligence. L'offrir d'une façon qui soit profonde, qui soit vraie. Cet esprit que nous donne Marie dans cette consécration doit s'incarner dans cette exigence de contemplation, doit s'incarner dans cette exigence de recherche de la doctrine, une recherche de vérité, et de vérité qui aille le plus loin possible. Évidemment, cette recherche de la vérité est imprégnée d'amour, et elle est tout entière au service de la contemplation. Elle doit s'incarner aussi dans une charité fraternelle. Et ceci, c'est très important. Et donc, dans une vie commune. Alors, c'est un très gros problème, vous comprenez bien, la vie commune. Hein. Alors, l'équilibre entre les exigences de la contemplation et de la vie commune ne sont pas les mêmes pour tous. Et on doit accepter cela. Même si on appartient à la même famille, on doit accepter que ce n'est pas le même pour tous. Pour certains, l'élément de charité fraternelle et de vie commune pourrait être quelque chose de beaucoup plus important que pour d'autres. Le tout, c'est qu'on ne refuse pas dans l'obéissance cet équilibre entre les deux. Ou cet épanouissement, si vous voulez, de la contemplation dans la charité fraternelle. C'est une chose qui me semble très importante, cela, de bien regarder dans le mystère de Marie comment celle qui s'est totalement consacrée à Dieu va répondre à Joseph. C'est un très beau mystère, ça. Le lien dans le cœur de Marie entre sa consécration à Dieu et son amour pour Joseph. Et sa charité fraternelle pour Joseph. Et la manière dont Joseph va lui-même entrer pleinement dans les exigences du cœur de Marie consacré à Dieu. Vous voyez, là, on touche quelque chose qui est typiquement chrétien. Quelque chose qui ne peut se comprendre qu'à travers le mystère du cœur de Jésus. Mais qui a été réalisé avant que le cœur de Jésus soit présent. Puisque Marie est fiancée à Joseph avant le mystère de l'Annonciation. Et ça, c'est très étonnant. Ça nous fait comprendre l'aurore de la vie évangélique. Quelque chose qui annonce la vie évangélique. Jésus nous dira que les deux commandements, l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard du prochain, ça ne fait qu'un. Nous savons que c'est très difficile à vivre. Hein. Mais nous savons aussi que c'est très important à avoir le désir de vivre de cette unité. Que plus nous sommes pris par leur raison, plus nous sommes pris par les exigences de la contemplation, plus nous sommes pris par les exigences d'une recherche de la vérité, plus nous sommes donnés à nos frères. Je dis bien donner à nos frères dans la charité fraternelle. La charité fraternelle reste un mystère. Donc vous ne pouvez pas juger de l'extérieur ce don fraternel. Vous faites confiance que chacun vraiment aime celui qui est à côté de lui, qu'il l'aime profondément. Il faut bien saisir cela. faut bien saisir la différence entre le mystère de la charité fraternelle et l'incarnation de cette charité fraternelle dans la vie commune. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre pour entrer dans ce que l'Esprit Saint réclame de nous et ce renouveau profond que nous devons essayer de comprendre au plus intime de notre cœur, de ce que représente une vie contemplative avec des éléments de vie commune. Une vie d'étude avec des éléments de vie commune. Je dis bien des éléments de vie commune. Notre vie commune est assez... Elle est lourde parce qu'on est nombreux, mais autrement elle est assez légère. Parce que c'est vrai, si vous regardez, assez légère, comprenez bien. Ceux qui ont des fonctions dans la vie commune, c'est lourd. Il y en a quand même pas mal qui en ont. Mais c'est lourd, surtout au début, il faut se roder. Alors c'est dur, et on doit par le fait même les aider. Ceux qui ont des fonctions, ont des responsabilités, on doit les aider. Mais il faut comprendre que la vie commune, telle que je crois qu'elle doit être vécue dans Saint Jean, telle que la très sainte Vierge nous demande de la vivre, est une vie commune qui doit garder un caractère. Parce qu'on ne termine pas la vie commune. La vie commune nous remet dans l'exigence de solitude et de contemplation. Alors, essayons de saisir dans le cœur de Marie, pour le saisir ensuite, au plus intime de notre cœur, pour chacun d'entre nous, les liens de cette consécration contemplative. Esprit pauvreté. Esprit de virginité, esprit d'obéissance. Cette consécration va permettre au cœur de Marie d'être totalement donné à Joseph dans un mystère de charité fraternelle. C'est ça qui est très étonnant. Fiancée à Joseph, hein, c'est ce que dit l'Écriture. Marie, qui s'est consacrée à Dieu, Marie accepte d'être fiancée à Joseph. L'Esprit Saint en Marie accepte ce lien avec Joseph, ce lien d'amour. Marie ne va pas s'isoler et se mettre au désert. Marie va comprendre, sous le souffle de l'Esprit Saint, qu'il faut qu'elle aime Joseph dans une charité fraternelle, dans un mystère divin d'amour, que Joseph, c'est vraiment l'envoyé de Dieu pour elle. Et qu'elle doit reconnaître cet envoyé de Dieu. Je crois qu'on peut dire que Marie n'a pu accepter ce lien qu'en communiquant à Joseph sa consécration. Puisque c'est mutuel, n'est-ce pas ? Un amour d'amitié, c'est mutuel. Il faut donc que les deux soient lucide sur cet engagement profond de Marie à Dieu. C'est du reste, je crois, pour cela, et la tradition l'a toujours considéré comme cela, c'est pour ça que Marie dit « Je ne connais point d'homme ». Il y a une espèce de petite contradiction. Hein. Alors on essaie de se débrouiller comme on peut, mais il faut bien voir cette petite contradiction. C'est toujours très intéressant de voir dans l'Écriture, quand il y a quelque chose qui semble un peu chaotique, parce que ça prouve qu'il y a derrière quelque chose de beaucoup plus profond qu'il faut souligner. Je ne connais point d'homme, Marie est totalement consacrée à Dieu. Et que les fiançailles à Joseph ne changent rien de sa consécration totale à Dieu. et que Joseph était pour elle ce gardien, plus l'époux, mais un époux qui l'aime tellement que Joseph respecte. Ce qui est plus intime dans le cœur de Marie, c'est bien ça. Quand on aime profondément quelqu'un, on respecte l'œuvre de Dieu en lui. Et on veut respecter l'œuvre de Dieu en lui. C'est la seule manière de l'aimer pleinement et totalement, et d'aller jusqu'au bout de cet amour. Autrement, on s'arrête à une espèce de manière d'aimer. Je crois qu'entre Marie et Joseph, il y a eu une amitié, saint Thomas dit, la plus grande des amitiés. Et saint Thomas est plutôt sobre quand il s'agit de préciser comme ça ses liens. Il dit la plus grande des amitiés entre Joseph et Marie. On comprend ? Parce qu'il y a une telle limpidité, et la limpidité est au service de l'amour. Plus notre cœur sera limpide, plus notre cœur sera virginal, plus nous serons capables d'aimer. Autrement, alors ça devient, hein, vous savez bien, c'est la caricature. La caricature de la virginité, c'est la vieille fille et le vieux garçon. Alors c'est très important la manière dont on met les pantoufles le soir, hein, au pied de son lit. C'est capital, c'est extraordinaire. L'amour de notre cœur est collé, enfin, à tel ou tel petit détail de notre vie. Alors ça devient effrayant. Bon, si on s'est consacré à Dieu, c'est pour aimer plus. Il faut comprendre que notre consécration à Dieu doit agrandir notre cœur et le rendre par le fait même plus vulnérable. On souffre plus, mais on aime plus. Ben bon, on a tous choisi d'aimer plus. Tant pis si on souffre plus. C'est un peu ennuyeux, c'est évident, à certains moments. Mais s'il y a un amour plus grand, alors on aura une force plus grande. L'amour apporte la force pour porter cette souffrance. Mais c'est normal que nous ayons tous un cœur blessé. C'est tout à fait normal, ce triste de ne pas l'avoir. Alors la blessure, oui, c'est bien. Pas la peine de le montrer à tout le monde, à mesurer la blessure aujourd'hui, vous voyez, elle a grandi d'un pouce, n'est-ce pas ? Non, c'est pas ça. C'est une blessure intérieure, c'est la blessure de notre cœur profondément. Mais nous offrons ce cœur blessé à Jésus, parce que nous sommes liés à l'agneau. La virginité, l'esprit de virginité, donne à Marie une capacité merveilleuse d'amour. Et ça, il faut demander au Saint-Esprit d'en avoir l'expérience. Que nous ayons l'expérience de ce cœur virginal de Marie pour comprendre jusqu'où elle aime et combien elle aime. Alors à ce moment-là, nous comprenons que cet esprit de virginité que l'Esprit-Saint a mis en elle, l'Esprit-Saint veut le mettre dans notre cœur pour que nous puissions aller jusqu'au bout des exigences de l'amour à l'égard de Dieu et de l'amour à l'égard du prochain. D'avoir vis-à-vis du prochain un amour divin qui assume l'amour humain. On ne doit pas avoir peur de l'amour humain s'il y a une consécration totale à Dieu. On ne doit pas en avoir peur. On doit l'assumer, le purifier, pour qu'il soit plus intense, pour qu'il soit plus vrai, pour qu'il y ait davantage un don de nous-mêmes. Le cœur de Marie immaculée, c'est pour qu'elle puisse aimer Joseph. C'est extraordinaire, ça. Le mystère de l'Immaculée Conception, c'est pour que Marie puisse aimer Joseph. C'est pour qu'elle soit totalement consacrée à Dieu et pour qu'elle puisse, à l'intérieur de sa consécration, aimer Joseph. Et l'aimer de cette manière telle qu'elle le choisit. Comme Joseph l'a choisi, elle le choisit. Et il y a entre les deux un choix mutuel d'amour. Ce choix est premièrement divin, ça, sûrement du côté de Marie. Du côté de Joseph, c'était premièrement humain, c'est très possible. Je n'en sais rien. On demandera ça à Joseph dans le ciel, quoi. Petite confidence. Est-ce que Joseph a commencé d'aimer humainement Marie ? Ou est-ce que Joseph a aimé d'abord Marie divinement ? Marie, sûrement, parce qu'elle est consacrée à Dieu.
Donc Marie a commencé d'aimer Joseph divinement. Mais l'aimant humain, l'aimant divinement, elle l'a aimé humainement, à l'intérieur même de son amour et de son don total qu'elle faisait à Dieu. Joseph, je crois, l'un des aspects que j'aime beaucoup dans Saint Joseph, c'est de voir que Joseph a bon goût. Il a bien choisi. C'est quand même très important, ça. Choisir quelqu'un que Dieu aimait. Et que Dieu aimait de cet avant. Il a rejoint, voyez, l'intention du Père. C'est extraordinaire. Sans que le Père lui révèle. Il a aimé Marie d'une manière unique. Il a deviné ce qu'il y avait comme trésor en elle. Qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, merveilleux. Et cet amour très beau, très grand, très noble, a été assumé. Mais il est resté. Il ne faut pas dire du tout que la charité supprime l'amour. Non, la charité l'ennoblit, le purifie. C'est ce grand mystère de la charité fraternelle. C'est un mystère très insondable. Hein. C'est un mystère de sagesse divine, le mystère de la charité fraternelle. C'est que nous nous choisissons les uns les autres dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Marie. Et nous devons arriver à nous aimer comme Jésus et comme Marie nous aime. Et nous avons arrivé petit à petit, même s'il y a des opinions différentes. Peu importe ces opinions différentes, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est de s'aimer dans la lumière du Christ, dans la lumière de Marie. Il faut regarder souvent cela, dans notre contemplation, il faut regarder souvent ce lien que l'Esprit Saint a réalisé entre le cœur de Marie et le cœur de Joseph. Et comprendre cet amour divin et humain. Comprendre cette amitié suprême que Dieu a voulu réaliser. Que Dieu a voulu réaliser, voyez, au terme de l'Ancien Testament, à l'aurore de la Nouvelle Alliance. C'est quand même très étonnant, ça. C'est au terme, puisque c'est juste avant l'Annonciation. On peut dire que la chose la plus grande que l'Ancien Testament ait réalisée, c'est cette amitié entre Joseph et Marie. C'est la chose la plus grande. L'Ancien Testament trouve là quelque chose d'ultime. Et c'est tellement grand que ça annonce la Nouvelle Alliance. C'est le passage entre les deux. Il faut être très sensible à ça, hein, de saisir les passages de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance et voir comment le Saint-Esprit a tissé ce passage, comment le Saint-Esprit a voulu réaliser ce passage entre les deux. Alors, dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph, là, c'est merveilleux. Parce que ça a une telle limpidité, une telle fraîcheur, une telle force. Un frère uni à son frère est comme une tour. Marie, liée à Joseph, est comme une tour. Elle avait déjà beaucoup de force, mais liée à Joseph, elle a une force encore beaucoup plus grande. Et Joseph, lié à Marie, a une force beaucoup plus grande. Il faut bien saisir comment cette consécration total de tout Marie à son Père qui exprime la réponse de Marie à la miséricorde prévenante du Père. Comment cette consécration permet à Marie d'aimer encore plus Joseph. Ça n'a pas été un obstacle. Ça a été au contraire une possibilité d'aller plus loin. Et Joseph a compris ça. Qu'il y ait en même temps une pauvreté. Alors c'est là où il faut saisir les deux. Le cœur virginal est lié à la pauvreté. Il y a un lien avec la pauvreté. Pour pouvoir aimer plus, hein, comprenons bien, pour pouvoir aimer plus, c'est la taille du Père qui est rude. C'est sûr, la taille du Père, elle est toujours rude. Mais cette taille du Père, c'est toujours pour permettre un plus grand amour. Et c'est vrai que cet amour de Marie et de Joseph, cette charité fraternelle qui existe entre Marie et Joseph, elle va se réaliser dans la pauvreté. Marie s'est offerte à Dieu. Et en rencontrant Joseph, Marie offre Joseph. Cet amour humain qui existe entre les deux, qui aurait pu s'épanouir comme un amour normal d'époux et d'épouse. Voilà que cet amour si intense et si fort entre Marie et Joseph va se réaliser dans une pauvreté. Une pauvreté qui permet à un amour plus intense. Ça, nous avons beaucoup de peine à comprendre ça, au point de vue de notre cœur humain. Nous avons beaucoup de peine à comprendre ça. C'est pourtant important de saisir que l'amour, pour aller jusqu'au bout de ses exigences, c'est-à-dire un don, et un don qui fait qu'on aime l'autre pour lui, et non pas pour nous, parce que tout est là. Tout est là, et la grande purification de l'amour, c'est ça. C'est d'aimer l'autre pour lui. Instinctivement, nous accaparons. Nous sommes comme ça, c'est notre faiblesse. Alors nous aimons l'autre pour nous. Et quand on aime l'autre pour nous, nécessairement, on arrête l'amour. Parce qu'il y a un égoïsme. Et un égoïsme à deux peut être un égoïsme. Hein. L'égoïsme à deux, c'est tout simplement s'aimer mutuellement pour que l'un et l'autre aient une satisfaction, alors que quand on s'aime vraiment, on aime ce qu'il y a de meilleur et de plus grand dans l'autre. Et on le découvre grâce à l'amour, et les autres ne peuvent pas le découvrir. Joseph a découvert ce qu'il y avait de plus grand en Marie. Et Joseph a aimé ce qu'il y avait de plus grand en Marie. Ce qu'il y avait de plus caché, de plus grand. Et Marie a découvert ce qu'il y avait de plus grand, Joseph. Et se sont aimés de cette manière. Et alors c'est là où la pauvreté du cœur de Marie s'est transmise à Joseph. Joseph est devenu, à ce point de vue-là, il est devenu l'enfant spirituel, mystique de Marie, dans la pauvreté. C'est le mystère de la pauvreté que Marie a transmise à Joseph. Et c'est grâce à cette pauvreté que Joseph a pu vraiment recevoir Marie dans ce respect plénier. Et que Marie a pu recevoir Joseph dans le même respect d'amour. Pour que l'un et l'autre puissent vraiment s'aimer. Comme Dieu voulait qu'ils s'aiment. L'un et l'autre restant dociles à l'Esprit Saint et à la volonté de l'Esprit Saint sur les deux. Et cette obéissance de Marie et de Joseph... Ça va se réaliser de cette manière qu'ils n'ont qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur eux. Ceci doit nous aider, voyez, à découvrir comment notre vie monastique, notre consécration à Dieu, dans l'esprit de virginité, dans l'esprit de pauvreté et d'obéissance, doit permettre l'éclosion d'une charité fraternelle très intense, très limpide, très pure, très pauvre, mais très intense. Il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres dans ce qu'il y a de meilleur en nous. Et que nous ayons le souci, que nous demandions au Saint-Esprit, vous voyez, de découvrir dans chacun de nos frères ce qu'il y a de meilleur en lui. Ce qui fait que Dieu l'a choisi. Alors ayons le même goût que Dieu. Parce que c'est la petite tentation, vous savez très bien, dans toute communauté. C'est-à-dire, je comprends très bien que Dieu a choisi un tel, un tel, un tel. Ça, je comprends. Que Dieu choisit les autres, ou alors là, je ne comprends plus rien du tout. N'est-ce pas ? Il y a dû avoir une absence particulière de Dieu. C'est justement vis-à-vis de ceux qui n'ont pas tout à fait la même sensibilité que nous, parce qu'au fond, c'est souvent une question de sensibilité. C'est normal que nous ayons des sensibilités qui soient très, très, très poussées. La vie religieuse et la vie contemplative augmentent notre sensibilité. Hein. Ça, on n'est pas cartésien dans la vie contemplative. Donc, alors, ça augmente la sensibilité. Et c'est sûr que ça augmente la sensibilité. On a une sensibilité plus aiguë si on est un contemplatif. Ça, c'est bien évident. Que celui qui brasse des affaires, ça use la sensibilité. Tandis que la contemplation intensifie la sensibilité. Et donc, notre cœur sensible est toujours plus capable d'aimer. Alors il faut arriver à aimer ce qu'il y a de meilleur, de plus divin dans chacun de nos frères. Et ça, il faut le demander, hein. C'est une prière qu'on doit demander au Saint-Esprit pour ne jamais nous arrêter à l'extérieur. On n'a pas le droit. Si on est un contemplatif, on n'a pas le droit de s'arrêter à l'extérieur. On vise tous à cette contemplation. On désire tous aller le plus loin possible dans cette contemplation. Et alors, la contemplation, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et vous savez bien ce qui est dit dans Saint Jean. Le monde ne peut pas le recevoir. Ça prouve que le Saint-Esprit a creusé en nous un abîme d'amour. L'Esprit Saint a creusé en nous une intériorité telle que nous devenons capables d'aimer nos frères et de les aimer selon le rythme de l'Esprit Saint et d'aimer chacun selon le même rythme de l'Esprit Saint, c'est-à-dire ceux pour qui nous avons de la sympathie. Tant mieux, hein ! Ne demandez pas au Saint-Esprit de supprimer les sympathies. Non, ça, ce serait une très mauvaise prière. Hein. Demandez au Saint-Esprit d'aimer divinement ceux pour qui vous avez de la sympathie et d'aimer divinement ceux pour qui vous avez moins de sympathie, pour ne pas dire autre chose. Parce que ça peut arriver de voir. Alors, c'est vrai, il faut les aimer divinement les deux. Et des deux côtés, il faut que la prière soit là très intense pour être victorieuse. Pour être victorieuse de nos sensibilités, que voulez-vous ? Nous avons des sensibilités qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, mais c'est une richesse d'avoir une sensibilité. Je vous affirme, vous le verrez plus tard dans la vie apostolique, celui qui ne sent rien dans son auditoire, hein, il pourra continuer de parler indéfiniment, personne ne l'écoutera avec lui. Alors, il s'en dira rien. Alors, celui au contraire qui sent l'auditoire, c'est plus rude. C'est beaucoup plus rude parce que vous sentez... Jésus sentait son auditoire d'une façon étonnante. Hein. Il sentait les objections des pharisiens. Il sentait les objections des scribes. Il ne faut pas croire du tout qu'il était complètement indifférent. Pensez ce que vous voulez, moi je suis au-dessus. Mais pas du tout, il ne pouvait pas dire ça. Et donc il y avait en lui une sensibilité énorme d'amour vis-à-vis de ceux qui étaient tout proches. C'est normal de sentir qu'on est blessé par des frères qui, de temps en temps, s'opposent sans trop le vouloir, du reste. C'est pas méchamment, mais on est quand même blessé. Je dirais heureuse blessure, sainte blessure. Parce que ça permet de maintenir en nous une sensibilité au service de nos frères. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la grâce ne supprime pas la nature. Hein, ça, c'est du pur saint Thomas. La grâce ne supprime pas la nature. Et c'est l'évangile de saint Jean. La grâce va permettre à la nature d'aller jusqu'au bout. Mais dans la pauvreté, hein, comprenez bien, avec la taille du Père, une taille merveilleuse, une taille pour aller plus loin dans l'amour. C'est pas diminuer, Dieu ne diminue jamais l'amour. On ne peut pas diminuer l'amour. C'est impossible parce que Dieu est amour. Mais Dieu purifie l'amour. Dieu va très loin dans ses purifications parce qu'il voit en nous un être capable d'aimer. Et au fond, c'est ceux-là que Jésus aime. C'est ceux qui sont capables d'aimer et qui sont capables d'aller très loin dans l'amour et qui savent qu'ils sont faits pour ça, dans un don total d'eux-mêmes. Alors à ce moment-là, on comprend comment la contemplation pourra s'épanouir dans la charité fraternelle. Vous savez bien, la grande Sainte Thérèse le disait toujours, c'est la charité fraternelle qui nous prépare de la manière la plus immédiate à l'oraison. L'adoration et la charité fraternelle. Et c'est la charité fraternelle qui manifeste le mieux notre contemplation. On ne peut pas prétendre être contemplatif si on n'a pas en soi une charité fraternelle intense vis-à-vis de ses frères. Et on ne peut pas prétendre à la vie contemplative si on n'a pas cette charité. C'est par la charité qu'on y entre, et c'est la charité qui va manifester cette charité, qui va manifester cette contemplation. C'est pour ça que le lien est si fort, c'est vrai ça. Il suffit de regarder Saint Joseph et la Sainte Vierge. Joseph n'a rien diminué dans l'exigence de la contemplation du cœur de Marie. Et Marie a intensifié la capacité d'aimer Joseph. Et les deux ont été liés. Et Dieu a voulu cela. C'est assez extraordinaire de la part de Dieu de faire des choses comme ça. Hein. Parce que c'est la grâce qui ne supprime pas la nature, mais la grâce qui va très loin dans les exigences de la nature pour ennoblir la nature. C'est pas du tout bourgeois, vous voyez. Non, pas du tout. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui relève de la sagesse de Dieu, qui a une espèce de dimension étonnante. C'est pour ça que c'est beau d'essayer d'y revenir tout le temps, parce que c'est cela que nous devons essayer de vivre. Nous devons essayer de vivre à la fois cette consécration totale de tout nous-mêmes à Dieu et une intensité de charité fraternelle, les uns pour les autres. Et si à cette intensité de charité fraternelle les uns pour les autres, je ne vous demande pas tous les soirs de réciter tous les... La liste deviendrait longue, la litanie, hein, de passer devant Dieu tous les frères. Mais aux Salve Regina, les regardez tous dans le cœur de la Sainte Vierge, les regardez tous dans la lumière de la Très Sainte Vierge. Alors quand on les regarde tous dans la lumière du cœur de la Sainte Vierge, ça va. Puis il y en a eu un petit accrochage, hein, parce que ça peut arriver. On met du temps avant de devenir des saints. Alors il y a eu un petit accrochage. Et le petit accrochage est d'autant plus fort qu'on a des sensibilités plus fortes et que de fait, on est simples les uns vis-à-vis des autres. On se dit facilement ce qu'on pense. Hein. Il vaut mieux, j'aime mieux ça l'inverse, hein, que si, vous voyez... On ne pouvait jamais savoir ce que l'un pense de l'autre. Non, il faut le faire avec le plus d'amour possible, le plus de vérité possible, mais bon, s'il y a eu des petits accrochages, qu'on demande à la Très Sainte Vierge le soir au Salve Regina, bon, il faudrait s'habituer à ça. Je me souviens, c'est ça fait partie de ma jeunesse, quand on était nombreux et qu'on était frères et sœurs et qu'on se suivait avec le même âge, c'est notre frère, hein. C'est un exercice merveilleux, hein, de l'irascible et du concupiscible, hein, c'est extraordinaire. Mais jamais un soir on s'est endormi sans se demander pardon. Bon, c'était quelquefois un pardon, hein. C'est un pardon difficile, si vous voulez. On ne vous demande pas que le pardon soit facile, ça c'est. Mais qui est toujours un pardon, qu'on ne s'endort jamais ayant quelque chose contre son frère. Qu'on pardonne. Je ne dis pas d'aller nécessairement lui baiser les pieds le soir, hein, ou aller prendre un broc et lui laver les pieds devant une grande cérémonie, vous voyez, ce serait je ne demande pas ça, c'est pas la peine. Mais intérieurement, avec in preparatio animi, la préparation de son âme, que si on pouvait le faire, on le ferait. En toute vérité. D'aller lui baiser les pieds. D'aller lui dire pardon. Je crois que c'est très important, ça. Vous voyez, pour la sainteté, c'est nécessaire. S'il n'y a pas ça, on ne marche pas vers la sainteté. Et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on veut marcher vers la sainteté, tous on veut marcher vers la sainteté. Eh bien ça c'est une condition, et ça on le peut, hein, on le peut. C'est dur, il y a des moments où c'est dur, c'est bien évident, il y a des moments où c'est dur. Mais il faut le faire, il faut qu'on arrive à se pardonner totalement, pleinement et totalement. Pour maintenir un regard contemplatif, pour maintenir un regard virginal. Un regard virginal. Ce qui blesse le plus le regard virginal, c'est de ne pas pardonner à son frère. C'est ce qui blesse le plus le regard virginal. Parce que le regard virginal, c'est quoi? C'est vivre de la jalousie du cœur de Jésus sur nous. C'est le reflet de la jalousie du cœur de Jésus sur nous. Or, le reflet de la jalousie du cœur de Jésus sur nous consiste justement à devenir l'ami de l'époux, à la manière de Jean-Baptiste. et donc d'être dans la joie d'entendre la voix de l'époux pour celui qui nous a un tout petit peu fait mal, qui nous a blessés ou que nous avons blessés. Et pour être joyeux d'entendre la voix de l'époux à son égard, il faut qu'on pardonne tout. Et ce qui blesse le plus, hein, cœur virginal, rappelez-vous ça. Ce qui blesse le plus, hein, la virginité du cœur, c'est de ne pas pardonner ses frères. Parce que ça empêche l'épanouissement d'un véritable amour.